Maghreb, Julia Trangeval.
Bonjour, 8 mars, journée internationale du droit des femmes qui va nous emmener au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. La Tunisie, pays pionnier de la cause des femmes en Afrique du Nord, qui assiste avec une certaine inquiétude à un recul des libertés. Nous en parlons avec la juriste tunisienne Jinan Limam. La Mauritanie, nous irons à Nouakchott à la rencontre d'une influenceuse, Asia Hussein. Et le Maroc, qui revoit ces temps-ci son code de la famille, la Moudawana. Cette réforme pour promouvoir la parité a été lancée en juillet 2022 lors du discours du roi Mohamed VI. Elle a permis d'engager une profonde discussion entre les féministes, les organisations politiques et religieuses. On touche désormais au terme de ce long processus sur lequel nous allons revenir avec notre invitée. Bonjour Rita El Hayat.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, anthropologue. En 1999, vous avez connu la notoriété en adressant une lettre publique au roi du Maroc, épître d'une femme à un jeune monarque. Aujourd'hui, si vous deviez écrire de nouveau au roi Mohamed VI, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Alors, je pense que je ne le ferai pas. C'est une espèce d'audace folle. C'est la seule lettre jamais écrite par une femme à un souverain arabe ou musulman de toute l'histoire. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Aujourd'hui, par rapport aux femmes, je pense que je n'ai pas grand-chose à lui dire parce que la Moudawana a été reprise à 2 fois sous son règne et que donc les choses avancent pour les femmes et d'une façon remarquable par rapport aux autres pays arabes et musulmans, dirais-je.
Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a de remarquable dans cette réforme de la Moudawana qui a déçu certaines féministes mais qui apporte en effet, un certain nombre d'espoirs. Le gouvernement a annoncé en décembre dernier quelles étaient les grandes lignes du projet de réforme, mais on ne connaît pas encore le texte final. Qu'est-ce qu'on peut dire des promesses de cette réforme ?
Elle entraîne de plus en plus vers l'égalité entre l'homme et la femme. En tout cas, elle donne des possibilités aux femmes qu'elles n'ont jamais eues. Le divorce était une chose masculine. Auparavant, la femme n'avait même pas le droit de demander le divorce. Et donc aujourd'hui, il y a le divorce par consentement, ce qui est un progrès absolument considérable. Ensuite, la mère a de plus en plus de droits par rapport à ses enfants. Elle co-dirige le foyer avec le mari, ce qui est une avancée extraordinaire. Et dans la prochaine Moudawana, s'il y a rupture dans le couple, elle reste avec ses enfants chez elle. Elle ne quitte pas. Donc il y a une protection de plus en plus forte de la mère, ce qui fait une protection de plus en plus forte pour les enfants. Moi, j'étais orpheline et j'ai eu un tuteur masculin. Aujourd'hui, la femme est tutrice de ses enfants. Elle n'a plus besoin de tuteur. Actuellement, ce qu'on voit, eh bien, c'est de plus en plus de protection de la mère, de la femme, qui donc se répercute automatiquement sur les enfants. Par exemple, il y a jusqu'à la dernière Moudawana, les femmes ne donnaient pas leur nationalité à leurs enfants. Le fait qu'elles puissent le faire, qu'il y ait une reconnaissance du droit maternel à donner sa citoyenneté, c'est une avancée capitale.
Pour vous, ce sont des avancées qui correspondent bien à la manière dont la société marocaine évolue aujourd'hui ?
La société marocaine est en train de muter à une allure très très vive, sous plusieurs effets. Les effets du travail des femmes, l'instruction, le nombre de filles à l'université, le nombre de diplômés, etc. Et donc, il était logique et légitime que la loi suive. Et donc, la loi s'adapte non seulement aux conditions sociales, mais elle s'adapte aussi à la religion du pays. On ne peut pas faire une Moudawana qui soit contre les principes dogmatiques de l'islam. Ce n'est pas possible et pas envisageable.
Il y a des limites dans cette réforme que vous voyez ?
Je n'y vois pas de limite personnellement et ça va beaucoup chagriner les féministes. Je n'y vois pas de limite parce que d'abord, moi je reçois des femmes toute l'année et toute la journée. C'est mon travail de psychiatre, de psychanalyste. Et une très grande partie de ces femmes sont ou analphabètes ou illettrées. Donc elles ne sauraient même pas faire valoir leurs droits. Et donc aller trop vite, ce n'est pas possible. Il faut que, justement, l'évolution produise des réactions juridiques et ainsi de suite et ainsi de suite.
Est-ce qu'il faut, plutôt que se concentrer sur la réforme de la Moudawana, insister sur l'instruction des femmes alors ?
Absolument, pour moi c'est essentiel. Dans ce que je demandais à Sa Majesté Mohamed VI, c'était le fait que les enfants accèdent à 6 ans à l'école primaire et pas à 7 ans, parce que j'avais fait un calcul en me disant, mais s'il y a 200 000 enfants qui ne rentrent pas cette année en CP et qui vont rentrer l'année prochaine, à 7 ans, on perd 200 000 ans. C'est facile, c'est des calculs. Bien, c'est la même chose pour les femmes, c'est-à-dire que l'instruction pour les filles et les garçons doit être obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour moi, il faut une couverture à 100% de tous les garçons et de toutes les filles dans la scolarisation. C'est essentiel pour accélérer le progrès, la modernité et faire accéder tous les individus à un optimum.
Les forces rétrogrades qu'on peut voir à l'œuvre en Europe, en Amérique, peut-être aussi en Afrique du Nord, est-ce que vous craignez que ça puisse porter atteinte au progrès pour les droits des femmes ?
Oui. Ça, c'est un point assez capital. On a deux problèmes. On a un problème de recul vers la tradition, vers le passé. Et puis, sachez que dans le monde avancé occidental, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le masculinisme, qui veut lutter contre tous les acquis des femmes, où les hommes sont en train de dire, bah, écoutez, on va redevenir des machos.
Et ça, c'est quelque chose qui est perceptible au Maroc aujourd'hui ?
Le masculinisme, non. Pourquoi ? Parce qu'il a jamais disparu. Les hommes sont encore dans tous leurs privilèges. Maintenant, il y a un glissement réel de la société vers des acquis sûrs. Par exemple, c'est la première fois de l'histoire du Maroc qu'on a une femme ministre des Finances. Ce n'est pas un rôle concédé. Elle est ministre des Finances dans un pays arabe. Et ça, c'est capital comme avancée. Pour moi, c'est capital. Donc là, puisqu'on est allé si loin, on va encore plus loin parce que les femmes sont partout.
Mais cette égalité dans la vie publique, est-ce qu'on la retrouve dans la sphère privée ? Est-ce qu'elle est souhaitable ? Et est-ce que ce n'est pas justement tout l'objectif de la réforme de la Moudawana voulue par les féministes ?
Je ne sais pas si c'est voulu par les féministes. C'est un projet national, hein. Ce n'est pas un projet uniquement induit par les féministes. Dans la sphère privée, c'est autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de divorces. Les jeunes femmes ne veulent plus cohabiter avec les belles-mères. Les jeunes femmes veulent faire couple avec leur mari. Elles font des mariages d'amour. À mon avis, il y a une espèce de choses un peu tristes. C'est une matérialisation de la relation avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit être capable financièrement. Sa virilité est aussi axée sur ses capacités matérielles. Il reste des difficultés économiques, certes, mais dans l'avenir, il va falloir encadrer le pourquoi de ces difficultés économiques. Par exemple, dans un couple où il y a un seul salaire très modique, on ne voit pas comment on peut faire 4 enfants. Il y a un problème aussi de régulation de naissance. Alors, on a beau dire que les femmes font beaucoup, beaucoup moins d'enfants, mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a tout un pan social de la société où la femme n'a qu'une seule fonction, c'est justement de faire des enfants. C'est de se marier, c'est son sort, c'est son destin. Dans 20 ans, on va être encore en train de faire évoluer la Moudawana parce qu'on va voir comment les filles vont évoluer. Imaginez qu'il y a 30-40 ans, il n'y avait pas une seule femme voilée à Casablanca. Aujourd'hui, elles sont voilées à 70-80%. Dans certains quartiers, elles sont voilées à 100%. Donc, est-ce que ça, c'est un néo-féminisme islamique ? Comme on dit, est-ce que c'est un recul ? Dieu seul le sait.
Rita El Hayat, psychiatre et anthropologue marocaine dans Carrefour du Maghreb. En Mauritanie, République islamique, les femmes luttent depuis des années contre les violences faites aux femmes. Symbole de ce combat dans cette société très conservatrice, un projet de loi prévoyant notamment l'aggravation des peines pour viol et la pénalisation du harcèlement sexuel. Ce texte a été rejeté à 2 reprises par le Parlement. C'est un projet de loi qui mobilise les féministes, mais aussi la nouvelle génération. À Nouakchott, Carrefour du Maghreb a rencontré Assia Hussein, une jeune influenceuse très suivie qui met sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur.
La loi, elle s'appelle El Karama. Donc quand aujourd'hui j'ai posté, beaucoup de filles malheureusement et de femmes qui ne comprennent même pas c'est quoi exactement, qui disaient non, on est contre cette loi. Cette loi, elle pousse à l'égalité homme-femme et c'est contre l'islam. Et sachant que après j'ai à partager la loi, j'ai dit vous pouvez lire et voir que c'est une loi qui est là pour nous protéger les femmes, sachant qu'en Mauritanie chaque jour il y a du viol, chaque jour il y a un cas et Franchement, on a vraiment besoin de cette loi.
À l'ère de l'influence numérique, Asia Hussein a décidé très vite de marier glamour et plaidoyer pour des grandes causes.
Quand je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, j'ai utilisé ma voix, j'ai utilisé ce potentiel pour informer, pour sensibiliser, pour partager tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, les droits des femmes. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai travaillé avec des organisations nationales et internationales, comme par exemple World Vision. On a eu à faire une caravane de sensibilisation sur le mariage précoce des enfants à l'intérieur du pays. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'organisations sur des causes nobles qui peuvent avancer le pays, la jeunesse de manière générale.
Dans ce pays de 5 millions d'habitants, le site spécialisé Data Reportal recense 1 240 000 utilisateurs de réseaux sociaux au début de l'année 2024, TikTok en tête. Sa communauté fait d'Asia Hussein l'une des influenceuses les plus suivies du pays.
En Mauritanie, les influenceuses sont plus actives sur Snapchat, mais je suis à la fois sur Instagram, TikTok et Facebook. Sur Snapchat, 156 000 abonnés et sur TikTok, 300 et quelques mille abonnés. Sur Instagram, à peu près 50 000. Facebook 20 000.
شكو ماكو تعالوا نسوي وياي ميك اب تيتوريال باللهجه العراقيه مع فلوما.
Elle se lance en 2020, au moment du Covid, d'abord en partageant sa routine beauté, mais son contenu s'enrichit peu à peu, elle gagne des admirateurs et quelques détracteurs.
À l'époque, c'était très facile d'être une personnalité connue sur le réseau parce qu'il n'y avait pas d'influenceurs. J'ai commencé juste avec une routine beauté, conseils, femmes. Donc la majorité de mes abonnés, c'est des femmes. Donc j'ai des conseillers sur l'entrepreneuriat. J'étais à l'époque étudiante. Donc, je choisissais des sujets sur lesquels débattre sur Snapchat. Et dans une société comme la Mauritanie, une fille qui s'expose sur les réseaux, qui partage sa routine, c'est du jamais vu, c'est même du mal vu. La famille, la société, tout le monde n'était pas très content de me voir sur les réseaux. Mais je savais que du jour au lendemain, ça allait changer aujourd'hui par rapport en 2020. Il y a eu un très grand changement. Les gens ont compris l'intérêt des réseaux sociaux, l'intérêt du marketing digital, ce que nous faisons, l'intérêt de collaborer avec les influenceurs pour sensibiliser, pour informer, pour partager. Du coup, nous, on le voyait parce que c'était une nouvelle génération. Mais les anciens ne comprenaient pas encore c'était quoi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharkoum lioum yak dabas wa khair.
Influence, sens des affaires et militantisme, finalement, tous les ingrédients du succès actuel d'Asia Hussein sont là depuis le début.
Au fur et à mesure, j'ai créé ma propre agence de communication de marketing digital qui s'appelle Blue Sky Solutions. Je l'ai créée en 2021. Nous sommes dans le community management, dans les stratégies de communication, dans les créations de vidéos, photos. Et on a eu à travailler avec des entreprises, des banques, des organisations, pas mal de projets. Moi, j'ai grandi dans un milieu, disons, associatif, activiste, car ma maman est une présidente d'une association. Donc, avant même d'être influenceuse sur les réseaux, j'ai participé à des réunions, à des ateliers, des conférences, des manifestations contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a même Aminatoum Tmoukhtar, présidente de AFCF, qui est aussi ma tante. Donc, j'ai grandi dans ce milieu depuis toute petite. Ce qui m'a beaucoup motivée et intéressée à défendre tout ce qui concerne la femme. Et du coup, quand j'étais étudiante, mes collègues et moi, nous avons créé une association qui s'appelle le Mouvement de la Jeunesse Mauritanienne pour le Développement, où on organisait pas mal de conférences avant d'être influenceuse.
Et aujourd'hui, elle peut formuler quelques recommandations à ceux et celles qui voudraient faire comme elle.
Trois conseils pour se lancer sur le réseau. Il faut être déjà prête. Ce n'est pas si facile parce que vous êtes suivi par des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont derrière des téléphones, qui peuvent vous mettre des commentaires négatifs, vous clasher, vous démotiver. Deuxième conseil, il faut cibler votre communauté et savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur les réseaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais moi, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui va me différencier des autres? Qu'est-ce que je peux apporter à la société, à ma communauté, mieux que les autres? Et le troisième conseil, il ne faut pas perdre son temps sur les réseaux. Quand on est sur les réseaux, il y a pas mal d'opportunités, surtout financièrement. Vous pouvez entreprendre sur les réseaux, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Les réseaux sociaux, ça prend énormément de ton temps. Donc, tu ne peux pas te permettre toute ta journée, tu es sur les réseaux et après, il n'y a pas un travail derrière ou il n'y a pas un retour financier.
Cet entretien avec Assia Houssaini, il est aussi à retrouver en vidéo sur la page Facebook de RFI et sur Instagram également. Cette semaine en Tunisie, s'est ouvert un procès hors norme pour complot contre la sûreté de l'État. Il a aussitôt été reporté au 11 avril prochain. Les accusés ont été maintenus en détention. Le durcissement du régime tunisien continue d'inquiéter les défenseurs des droits humains qui constatent un recul des libertés dans tous les secteurs, même s'agissant du droit des femmes. Pourtant, la Tunisie est un pays pionnier en la matière, comme le rappelle la juriste Jinan Nima.
Il y a une longue tradition moderniste, réformiste en Tunisie. Le débat sur, par exemple, le voile, le débat sur l'égalité des femmes, sur leur droit à l'éducation, même l'égalité successorale, date des débuts du XXe siècle avec des penseurs très avant-gardistes comme Taha al-Haddad. Donc la question de l'émancipation des femmes était également portée par le mouvement de libération nationale en Tunisie. Et il s'inscrit dans une dynamique quand même de modernisation de l'État et de la société. Alors, en 1956, Bourguiba faisait de la cause de la libération de la femme une cause nationale centrale pour construire un État nouveau, pour se démarquer aussi des autres pays arabo-musulmans. Il y a eu une série de réformes, notamment le code du statut personnel qui a envisagé les rapports au sein de la famille sur une base plutôt égalitaire, mais le code des années 50 a évolué et il a entraîné l'évolution des autres textes juridiques, notamment le code civil, le code pénal, le code de la nationalité. Donc il y a des réformes juridiques qui ont un peu provoqué l'évolution de la société.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la constitution de 2022 ne revoit en aucun cas les acquis. Donc, il y a la question de l'égalité entre citoyens et citoyennes, lutte contre la discrimination et puis un engagement donc, de l'État pour la sauvegarde et l'évolution, et la consolidation des droits des femmes, la parité qui est également dans la Constitution et puis l'engagement pour lutter contre les violences. Donc, c'est à peu près le même dispositif de la Constitution de 2014. Par la suite, il y a des raisons pour s'inquiéter. Parce que ce qu'on a reproché à la Constitution depuis toujours en Tunisie, c'est qu'on promet beaucoup, mais par la suite, on se trouve face à des réalités en décalage par rapport au texte constitutionnel. Et donc, les inégalités sont persistantes au niveau économique, au niveau de la participation politique. Une loi électorale qui a été mise en application lors des élections législatives où la parité n'a plus de place. Et d'ailleurs, le résultat est là. Environ 16% de femmes élues au Parlement. On est en régression par rapport au résultat de 2014 et par rapport au résultat de 2019 où on a pu atteindre les 29%.
Jinan Nimam, professeure de droit à l'Université de Tunis.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain.
Natacha Atlas, mon amie La Rose dans Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.